Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui on va pas mal parler de la grande distribution avec la guerre des prix entre les enseignes et les industriels. On va aussi parler de l'e-commerce alimentaire et d'Amazon, de l'explosion des ventes d'électroménagers, ainsi que Coca-Cola qui lance une bouteille en carton. Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Le Figaro. Alimentation, le retour de la guerre des prix. Alors Olivier, on arrive à la dernière ligne droite des négociations entre la grande distribution et les industriels et on apprend que cette année, les échanges sont encore plus tendus que d'habitude.
Oui, et chaque année, c'est une spécificité un peu française. Hein. On a les box de négo entre les industriels et les acheteurs de la grande distribution, donc sa bataille ferme sur les prix. On a d'un côté des industriels qui, en 2020, ont eu des coûts qui ont quand même augmenté, que ce soit sur les matières premières, je pense au prix des céréales, au prix du lait, au oui. prix de la viande aussi.
Il y a certains industriels qui parlent d'une augmentation des 30 à 50% de leurs matières premières.
Ouais, bah oui, forcément. Les céréales, clairement, ont bien monté, notamment à cause de la hausse de la demande chinoise. Hein. C'est la Chine aujourd'hui qui fait aussi qui fait monter les prix sur les marchés mondiaux.
Intéressant.
Et du coup, on a aussi des hausses de coûts liées à la crise sanitaire, avec les achats de masques, le fait d'avoir des gestes barrières. On peut mettre moins de personnes quelque part au mètre carré dans les usines.
Bien sûr.
Donc ça fait aussi augmenter les coûts fixes.
Et en revanche, les enseignes disent que les Français, ils ont perdu en pouvoir d'achat et ils veulent leur proposer des produits à un prix plus intéressant. Quoi.
Voilà, ça fait des années que certaines enseignes mettent en avant les prix bas, mais c'est vrai que cette année, on a des Français qui sont dans des situations un peu précaires. Hein,
bien sûr.
Étudiants, je pense à ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont au chômage partiel.
Bien sûr.
Donc forcément, les distributeurs vont chercher à tirer les prix vers le bas, là où les industriels vont vouloir tirer un peu les prix vers le haut. Et in fine, ceux à qui on pense pas forcément, c'est ceux qui sont en bout de chaîne, à savoir les agriculteurs.
Tout à fait.
Qui sont, eux, pressés par les industriels aussi, qui sont pressés eux-mêmes par la distribution.
Oui, et justement, il y a les ministres de l'Agriculture, donc Julien Denormandie, qui est monté au créneau, en fait, pour avertir la grande distribution, ainsi que les industriels qui, en poussant les prix vers les bas, ont fini par impacter, en fait, les agriculteurs, en bout de chaîne.
Oui, c'est ce qu'a dit le ministre. Il a averti les acteurs en leur disant que s'ils poussaient les prix à la baisse, ils sont en train de tous creuser leur tombe.
Ouais. C'est clair.
Donc, c'est pas seulement les agriculteurs, parce que les agriculteurs ont le citron pressé par les prix. Ils vont mettre la clé sous la porte et il n'y aura plus de matières premières. On sera obligé d'importer aussi certains produits de l'extérieur.
Oui, et tu vois que les gouvernements, il est vraiment impliqué. La semaine passée, donc, Julien Denormandie, il a gratifié Lidl d'une visite pour saluer la signature des contrats sur les laits à un prix plus rémunérateur pour les producteurs. Donc,
voilà.
Il est là pour taper sur ceux qui ne se portent pas bien, mais aussi pour féliciter les acteurs qui jouent les jeux.
Oui, on a des acteurs. Après, ça fait une bonne campagne de pub pour certains acteurs de
bien
dire
sûr.
On paye plus cher le
bien
lait,
sûr.
On paye plus cher ceci, cela. Là,
oui.
Reste que il faut bien avoir en tête aussi que pour un distributeur, on a quand même des produits qu'on est obligé d'avoir en magasin.
Mmh.
C'est des produits d'appel. Hein. Si vous n'avez pas la grande Coca-Cola, si vous n'avez pas Coca en rayon, les gens qui veulent du Coca, ils vont peut-être aller voir ailleurs.
On est d'accord.
Idem pour du Nutella. Il y a certains produits standards sur lesquels les distributeurs vont prendre très peu de marge.
Ils acceptent de prendre moins de marge.
Ils vont prendre moins de marge et du coup, ils vont essayer de récupérer de la marge sur des produits de PME ou de plus petites entreprises, un peu des produits de terroir ou des choses comme ça, sur lesquels nous, consommateurs, on n'a pas forcément de notion du prix.
Bien sûr.
Les gens qui achètent du Coca, ils savent
que
le Coca,
ça coûte X euros le litre. Quoi.
Si tu achètes du Nutella, tu sais que ton Nutella, il coûte tant. Donc, s'il y a une hausse de prix, tu vas l'avoir.
Mm-hmm.
Par contre, sur certains produits de
qu'on
PME...
Qu'on consomme de façon moins souvent.
Voilà, tu t'as pas forcément la notion du prix récurrent.
On est d'accord.
Et je reprends une formule de Serge Papin, c'était à l'époque en 2012. Cette histoire de guerre des prix, elle est pas toute nouvelle. Il disait à l'époque, le coco de Paimpol finance le cola d'Atlanta.
Génial.
Donc c'est vrai, Serge Papin était à l'époque président de Système U, donc on voit que c'est un problème récurrent finalement, les négos.
Et cette année, je pense, amplifiée par la crise sanitaire, crise économique surtout. On cite notamment, tu parlais de distributeurs qui font leur pub. J'ai vu cette semaine en fait sur LinkedIn, donc Pierrick Deron, président des Biocop, qui faisait la pub des Biocop en disant Biocop protège la valeur pour ses fournisseurs, pour les industriels, pour les agriculteurs. En revanche, dans l'article, on cite notamment les discounters Aldi qui a demandé 12% des baisses des prix pour certains produits.
Oui, c'est énorme.
Donc, on a des comportements qui sont assez différents et finalement, ceux qui sont impactés, c'est les petits producteurs, quoi, les PME.
Ouais. Tout à fait.
Justement, on va continuer sur les mêmes sujets avec un deuxième article, cette fois-ci sur Le Parisien, guerre des prix entre producteurs et grandes enseignes, les combats des David contre Goliath. Et dans l'article, on en apprend que les PME ont du mal à convaincre la grande distribution du fait que leurs coûts ont augmenté et qu'ils ne peuvent pas accepter la baisse des prix demandés.
Ouais, tout à fait. On constate qu'il y a quand même une forte tension hein, cette année et il y a des directeurs de PME qui généralement vont parler à couvert ou ont peur des représailles des acheteurs de la grande distri. Si t'es pas content de notre offre, ben écoute, on te déréférence et puis tu perds une partie de ton débouché. Donc pour une petite PME, c'est quand même une grosse partie de son chiffre d'affaires qui peut être en jeu.
C'est clair. Il y a même un directeur de PME qui a dit, donc de façon anonyme, jamais en 40 ans, je n'ai connu une situation aussi tendue, en fait. Et même un représentant de la FEF, il dit les profits des distributeurs ont bondi, mais les PME n'en voient pas la couleur, en fait.
Voilà, et du coup, c'est Alexis Vaillant, le président fondateur d'Alterfood, qui prend cette fois la parole de manière claire, en s'affichant, en disant que les conditions dans lesquelles se déroulent les négos cette année, c'est un combat vraiment de David contre Goliath.
Ah, c'est super. En plus, Alexis, il est auditeur assidu des Business of Move. On pourrait peut-être essayer de l'appeler pour voir s'il est d'accord.
Allons-y, on peut essayer.
De nous partager son point de vue. Bah, écoute, j'ai l'appel, on va voir. Alexis, il faut que tu répondes là, sinon on va... Oui, allô, Alexis, bonjour. C'est Daniel et Olivier des It's Business, Business of Move. Tu vas bien ?
Salut, comment ça va ?
Ça va très bien.
Super, salut Alexis.
Alexis, on parlait justement de la grande distribution, de la guerre des prix entre la grande distribution et les PME. On voudrait peut-être avoir ton avis aussi, parce qu'on faisait référence à l'article du Parisien où tu expliques un peu la situation et tu donnes un peu ta perspective. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette année, les discussions avec la grande distribution sont plus difficiles ?
Ouais, si tu veux, chaque année, les discussions sont compliquées avec la grande distribution. Mais je pense que cette année, elles sont d'autant plus compliquées à cause de la crise sanitaire, à cause de la crise Covid. Mmh. Pour une simple et bonne raison, c'est que psychologiquement, tout le monde est fatigué. Je pense pas que les PME s'attendaient à être attaquées aussi fort sur les prix.
Ouais.
Et c'est vrai que les Français ont certainement une attente de prix fort dans la mesure où quand même, on se dirige quand même vers une petite crise économique. Je pense que tout le monde est assez intense sur l'idée du prix fort et du prix bas, qui est très mal perçu par les PME d'une manière générale. Non pas qu'on veuille pas proposer des produits au juste prix, bien au contraire, mais que on a tous perdu énormément de business pendant la crise. Les économiques et les frais de structure ont énormément augmenté. Et notamment sur certaines matières premières, on a eu des augmentations. Donc, très difficile d'attaquer les négos par des déflats cette année.
Et du coup, finalement, est-ce que les distributeurs, ils sont tous à mettre dans le même sac ? Est-ce que c'est compliqué vraiment avec tous les distributeurs cette année ? Ou est-ce qu'il y en a qui se comportent un peu mieux que d'autres ?
Ouais, c'est toujours, tu sais, après, ça dépend. Déjà, ça dépend des secteurs. Nous, comme tu le sais, on est dans la soupe, dans la boisson. Par exemple, la boisson et les boissons bio ont été super attaqués cette année. Donc, dans le secteur de la boisson, c'est extrêmement dur. Après, ça va dépendre des enseignes et des secteurs. Et très honnêtement, ça varie d'année en année. T'as des années où ça va mieux se passer avec certains, des années où ça va mieux se passer avec d'autres. Cette année, ça se passe un peu mieux avec les indépendants. Je pense que c'est parce que c'est des c'est des enseignes d'entrepreneurs et ils ont une vision qui est un peu différente.
Ils ont moins la pression des actionnaires et de la bourse, quoi.
Il y a potentiellement moins de pression d'actionnaires et il y a aussi des sensibilités peut-être produits un peu plus importantes parce que c'est des patrons de magasins et qu'ils comprennent que leur demandent leurs clients et ce que recherchent les Français. Et je pense qu'ils ont aussi conscience de comment les PME ont été attaquées cette année par la crise Covid.
Et justement, une dernière question, Alexis, on te laisse continuer ta route. En fait, est-ce que tu penses qu'il y a une solution à ces problèmes? Évidemment, chacun part d'un point de vue différent. Vous avez eu des augmentations des coûts de votre côté. Les enseignes disent qu'il faut proposer des produits à des prix plus intéressants aux Français. Comment trouver une solution qui plaît aux deux parties, quoi?
Alors, il faut pas se tromper de débat. C'est-à-dire que les enseignes sont nos partenaires. Et les enseignes sont des formidables partenaires des PME. Le problème qu'on a, c'est le cadre, et notamment le cadre légal des négociations commerciales. Mmh. La première chose, et une solution que nous on propose, notamment à la FEF, c'est d'arrêter cette histoire de contrat annuel. Le contrat annuel, c'est ridicule. Chaque année, c'est comme si chaque année, tu allais renégocier ton salaire avec ton patron, et qu'en plus, tu vas le renégocier à la baisse. Je suis pas certain que ça marche. Donc nous, on propose, on a l'idée de contrats pluriannuels, soit des CDI, soit des contrats sur deux ans, qui permettraient quand même de s'inscrire plutôt dans le temps, de construire un développement de produits ensemble, et puis de se baser là-dessus. Ça, c'est une des premières choses qu'on propose. L'autre point aussi, c'est la liberté du tarif. C'est qu'à un moment donné, c'est extrêmement important qu'on puisse fixer nos tarifs de manière transparente, en fonction des différents coûts de production et des coûts des matières premières agricoles. Ça, c'est important que ces tarifs, une bonne fois pour toutes, ils soient acceptés et qu'on puisse discuter correctement autour de ces tarifs. Et un autre point, c'est que nous, compliqué de le mettre en norme, mais on se bat pour avoir un minimum de quotas de marques de PME dans les rayons parce que on pense que c'est important pour la souveraineté alimentaire et pour la diversité. Donc, on souhaite que tout le monde joue le jeu de plus de marques de PME dans les rayons.
D'accord, ouais, c'est intéressant.
Bah, merci beaucoup Alexis pour ta participation et pour nous partager ton point de vue et surtout proposer des solutions à ces problèmes. On va continuer avec notre émission It's Business. On te souhaite bonne route et à très bientôt.
Salut Alexis.
Merci, salut, à bientôt.
Bon, c'était super d'avoir cette participation d'Alexis et Olivier, mais on va continuer à parler grande distribution. Mais cette fois-ci, on va parler de l'e-commerce agroalimentaire. C'est sur Business Insider comment Amazon va changer son offre alimentaire et s'associer avec Monoprix. Alors Olivier, avec une grande surprise, on apprend qu'Amazon va arrêter les ventes des produits alimentaires en France et va se focaliser quasi exclusivement sur la prestation des services logistiques aux acteurs de l'agroalimentaire.
Oui, Amazon est arrivé il y a 5 ans sur le marché français en tant que distributeur alimentaire.
Donc il achetait et vendait des produits.
Voilà, il achète, il stocke et il revend. Amazon s'est rendu compte que finalement le marché français est un peu complexe. Mm-hmm. On a quand même des acteurs de la distribution qui sont bien implantés, qui ont aussi développé leur offre. Et du coup, Amazon se rend compte que finalement cette activité-là, de sélectionner des produits, de les stocker, de les vendre, bah c'est un vrai métier aussi. Amazon, à la base, c'est quand même plus un logisticien.
C'est ça la force d'Amazon.
Et du coup, ils ont annoncé qu'ils vont arrêter Amazon Retail et ils vont se concentrer uniquement, effectivement, principalement sur l'offre qu'ils ont avec Monoprix.
Et quand tu regardes les PNL d'Amazon, tu te rends compte que c'est là où ils gagnent de l'argent en fait, parce que sur la partie vraiment retailer, achat et revente produits, les marges sont très 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 serrées. Par contre, sur toute la partie service, Amazon dégage une profitabilité très intéressante. Ce qui est intéressant sur donc l'offre d'Amazon en France pour l'agroalimentaire, Amazon Prime, on retrouvait avant des marques, des boutiques Monoprix, Naturalia, Truffaut, mais aussi Amazon. Donc tu pouvais choisir avec qui tu passais tes courses, tu passais ta commande. Mais là, Amazon sera plus disponible. En fait, l'offre, elle va juste porter les marques de Monoprix, Naturalia, Truffaut et peut-être d'autres acteurs par la suite.
Voilà. Et puis, du coup, ce sera... c'est comme quand on fait déjà des commandes, c'est marqué vendu par et expédié par Amazon. Ce sera
voilà,
ce système-là.
Voilà, on pose ce système-là. Enfin, ça devient une espèce de place des marchés où Amazon assure la voilà. livraison, surtout du dernier kilomètre, parce que c'est un peu la force d'Amazon aussi.
Et du coup, Amazon avait jusqu'à présent une dizaine d'entrepôts dédiés justement à l'alimentaire. Donc,
en France, dans toute la France.
En France. Et il y en a un qui va déjà être transformé pour répondre à cette nouvelle demande.
C'est lui qui est au nord de Paris, dans le 18e arrondissement.
Tout à fait. Donc, on peut imaginer que les 9 autres vont aussi être retransformés. Et du coup, effectivement, Amazon, quelque part, abandonne cette activité-là. Ce qui est assez surprenant, c'est que, par contre, Amazon Fresh débarque en Espagne.
Ah! Donc c'est vraiment, je pense,
une spécificité du marché français. Qui fait que Amazon décide de se retirer parce que voilà, il y a des gros acteurs en place sur ce marché.
Et il y a des habitudes en France qui sont différentes ailleurs, notamment les drives, qui est un phénomène assez français. Ce qu'on apprend de l'article aussi, c'est que l'enseigne française prépare une commande des 50 articles en 6 minutes grâce à des robots ultra performants. Et en fait, ils peuvent assurer donc pour Monoprix des livraisons en moins de 2 heures contre par exemple 24 heures, quel est le délai minimum que Monoprix propose quand on passe une commande directement sur leur site e-commerce.
Oui, et puis après, il y a des acteurs aussi qui arrivent sur ce créneau-là de la livraison, qui sont très très bons.
Il y a Cajou, dont on a parlé.
Il y a Cajou en 15 minutes. Il y a La Belle Vie aussi qui est très très développé.
Mon Marché qui se développe.
Mon Marché, donc La Belle Vie livre en 3 heures.
Voilà.
Donc c'est quand même aussi intéressant.
Et justement, nous, on s'est intéressé à la question du temps des livraisons. On fait habituellement des enquêtes sur le compte Instagram des Business of Bouffe. Donc la semaine dernière, comme on parlait des Cajou, on a posé la question à nos auditeurs si en fait le concept de se faire livrer en 15 minutes, si ça les intéressait. Et donc il y a 12% des gens qui ont dit c'est faire livrer en 15 minutes, ça m'intéresse. Par contre, il y a 70% de nos auditeurs qui ont dit c'est pratique, mais pas indispensable. Et il y a 18% qu'on dit on a toute une vie, je peux attendre la livraison. Donc on se rend compte que finalement entre 15 minutes et 3 heures, est-ce que c'est vraiment un facteur des différenciations qui peut avoir un impact important sur les ventes ou pas? Moi j'ai l'impression que non.
Non, je pense que ce qui jouait en fait, c'est qu'avant les distributeurs français n'étaient pas vraiment très développés sur le e-commerce alimentaire.
Mmh.
On faisait une commande et puis on pouvait être livré à J+1, J+2. Pendant la crise du Covid, c'était même parfois à J+10. Mmh. Donc, par contre, si vous êtes livré le jour même, ça change la donne.
Bien sûr.
Donc, si vous êtes livré le jour même en 15 minutes ou en 3 heures, bon, c'est une question d'organisation. Mais vous savez que si vous faites la commande le matin, vous l'avez soit à midi, soit le soir. C'est pas.
Ça change la façon comme on approche cette commande-là. Parce que si on a besoin des produits pour la journée, on va la passer. Si c'est quelque chose pour juste les courses du mois, on peut attendre les lendemains pour recevoir ces produits.
Et je pense que ces livraisons en 15 minutes, c'est sur des produits dont on a besoin. Voilà, on organise un apéro à l'arrache. On commande en sortant du boulot. Donc c'est plus sur des commandes comme ça que je vois la livraison 15 minutes intéressant.
Mais ce qui est intéressant dans l'article aussi, c'est qu'on posait la question à un porte-parole d'Amazon France en disant est-ce que c'est un signe de l'affaiblissement et du retrait du genre américain sur l'alimentaire dans les pays. Et il disait c'est totalement le contraire en fait. Notre ambition est toujours hyper forte sur l'alimentaire, d'autant plus avec les contextes sanitaires actuels. On ne veut surtout pas réduire la voilure. L'association avec Monoprix nous permettra de développer notre maillage dans toute la France.
Oui, mais après...
Mais en tant que logicien.
ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'Amazon a racheté Whole Foods aux États-Unis.
Oui.
Donc, on peut très bien imaginer Amazon qui décide peut-être d'acheter des magasins physiques. On pourrait, pourquoi pas, imaginer Amazon qui rachète Monoprix.
Bah écoute, pourquoi pas. Et franchement, Amazon a largement les moyens de...
Ça peut rester dans les possibilités.
C'est un très bon point que tu évoques. On va continuer à parler d'Amazon et justement de son intérêt par l'agroalimentaire. Mais maintenant, c'est un article sur les blogs Le Furet du Retail. Amazon n'est vraiment plus à l'aise avec la vente en ligne des produits alimentaires. Une confirmation. Alors Olivier, dans cet article, on retrouve une analyse très pertinente de l'activité des ventes en ligne des produits alimentaires d'Amazon en France et aux États-Unis, réalisée par un des experts du secteur.
Oui, tout à fait. Et il analyse à la fois le e-commerce d'Amazon en France, mais également aux États-Unis.
Mm-hmm.
Hein, il rappelle notamment que Amazon Prime, c'est 150 millions de foyers abonnés, ce qui est énorme. Hein,
énorme, ouais.
Et du coup, il faut bien avoir en tête aussi qu'historiquement, Amazon faisait peu de profits jusqu'à il y a quelques années,
mm-hmm.
et que le gros de ses profits c'est l'activité AWS. Service.
Oui, bien sûr.
C'est tous les services cloud, etc. Mm-hmm. Alors que le magasin Amazon, en tant que tel, était à perte, hein, clairement. Bien
sûr. Mais c'est justement ce qu'il dit, c'est qu'avec les départs des Jeff Bezos et l'arrivée du nouveau président, que c'est quelqu'un qui vient de l'activité service, probablement on peut s'attendre à un changement de la stratégie d'Amazon vers la profitabilité. Ça veut dire c'est dégager peut-être certaines activités qui sont peu rentables et se concentrer sur d'autres qui apportent plus de valeur.
Et historiquement, on sait tous que l'alimentaire, ça a été toujours le dernier, enfin un peu le parent pauvre du e-commerce, hein, depuis des années, parce qu'on a encore besoin de toucher les produits, mmh. sur le frais notamment.
On est d'accord.
On aime bien aller dans le magasin, choisir nos oranges, nos pommes, et pas que quelqu'un d'autre les choisisse pour nous. Et c'est vraiment ce qui a freiné... le e-commerce alimentaire jusqu'à il y a peu de temps.
On est d'accord, mais ce qui est un peu contradictoire dans tout ça, c'est que l'auteur de l'article il souligne qu'aux États-Unis, Jeff Bezos reste très enthousiaste par rapport à son modèle Amazon Fresh Grocery, un format hybride et autonome dans la logistique. Et en fait, lui, il voit dans ces modèles hybrides une révolution aussi grande que lorsqu'il a imaginé en 1994 la plus grande librairie du monde. Donc, il croit finalement beaucoup au retail physique, quoi.
Oui, mais bon, après, c'est peut-être aussi parce qu'aux US, tout ce qui est picking, drive et tout ça, c'était assez peu développé jusqu'à il y a peu de temps. Et chez nous, ça s'est développé beaucoup plus vite, en fait.
On est d'accord. On va continuer sur l'e-commerce alimentaire, mais cette fois-ci avec un acteur qui est beaucoup moins connu. C'est un article sur la publication Republic Retail. Découvrez Picnic, les Néerlandais qui cassent les règles de l'e-commerce alimentaire. Olivier, on apprend que l'e-commerce alimentaire néerlandais détonne sur les marchés en imposant ses règles aux clients.
Oui, je trouvais ça très intéressant.
Moi aussi.
Cette vision de Picnic. Donc Picnic, c'est un e-commerçant qui faisait 6% de part de marché en 2017 et qui faisait jusqu'à 22% l'an dernier.
Ouais. 550 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Estimé. Et en fait, c'est sa manière de fonctionner qui est intéressante dans le sens où il ne va pas adresser tout le monde. Mmh. Grosso modo, vous vous inscrivez, Picnic vous annonce, voilà, on arrive dans telle zone et vous vous inscrivez. Et si vous êtes, si votre adresse, elle se trouve sur la tournée que fait le camion de Picnic, mmh. et que vous respectez, en fait, le créneau de livraison, il vous est imposé par Picnic, mmh. là, vous pouvez devenir client et passer commande.
C'est énorme. Ce qu'ils disent dans l'article, c'est que c'est devenu presque tendance de se faire livrer par Picnic. Donc, dès qu'il arrive dans une zone où on est résident, il y a la queue, il y a les gens qui se sautent sur l'opportunité de se faire livrer par Picnic.
Oui, c'est assez intéressant parce que finalement, effectivement, du coup, ça leur permet de ne pas faire de détours, de livrer vraiment au plus vite les clients. Et pour ça, ils ont aussi un assortiment qui est assez court, hein, environ 7000 références.
D'accord. En France, je pense que les enseignes oscillent entre 15 à 25 000.
Voilà.
Donc c'est quand même 25% des références.
C'est un peu le modèle qui a pris cajou, hein, finalement.
Bien sûr. Vous avez concentré sur le
peu de variétés sur un produit. Et du coup, leur offre, elle va se concentrer plus sur les besoins des familles urbaines avec enfants. Mmh. Donc du coup, forcément, ça réduit aussi un peu l'offre par elle-même. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que Picnic a été jusqu'à concevoir son propre camion.
Ça, c'est énorme. Ouais.
Donc c'est un camion qui a des roues qui tournent à 90 degrés. Et du coup, c'est plus facile pour manœuvrer en milieu urbain et se garer facilement.
Ah oui, ça...
Et ce qui fait que grâce à ça... la livraison, elle se fait en 3 minutes, alors que le concurrent de Picnic, lui, il met 12 minutes par livraison.
C'est génial. Donc déjà, un tapo, eux, ça leur permet de faire plus des livraisons dans un même créneau. Et aussi pour les consommateurs, parce que la livraison, elle est beaucoup plus fluide et beaucoup plus vite, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Picnic utilise ses chauffeurs comme des ambassadeurs. Et en fait, ils emploient des étudiants qui sont dotés d'une application pour suivre même les NPS, les Net Promoter Score, c'est un suivi des qualités clients pour savoir si les clients ils aiment ou pas l'expérience. Et ils forment ces étudiants à bien représenter la marque et peut-être faire de l'acquisition aussi au même temps qu'ils font de la livraison.
Oui, c'est un côté intéressant. Donc du coup, on retrouve le côté très logistique, logistique poussée à l'extrême. L'efficacité de la logistique, c'est le nerf de la guerre sur le e-commerce.
On est d'accord. Donc, ils ont même développé leur propre système de gestion des transports en fait, qui prend en compte la météo par exemple pour adapter ses tournées. Voilà. Donc ils sont très pointus dans la gestion de leur livraison, quoi.
Donc le jour où il pleut, si vous êtes pas dans, s'ils changent la tournée, vous serez pas livré.
Voilà. J'adore. Les clients n'est plus les rois chez Picnic, mais ça a l'air des marchés parce que ça devient, bah, quand même, ils proposent des produits, et ça, on n'a pas évoqué, mais avec un prix très intéressant. Et c'est aussi ça qui attire beaucoup les consommateurs en Irlande.
Voilà, le consommateur s'adapte aussi, hein, finalement.
On est d'accord. Un dernier article sur la grande distribution, mais avec un angle différent cette fois-ci, c'est sur Les Échos. Des actionnaires veulent que les supermarchés Tesco combattent l'obésité. Alors, Olivier, des actionnaires vont déposer à la prochaine Assemblée Générale une résolution sanitaire pour forcer Tesco à vendre des produits plus sains.
Oui, alors il faut savoir aussi, pour remettre dans le contexte, que le Royaume-Uni, c'est un des pays au monde où il y a le plus de personnes obèses. Hein. Donc c'est aussi, il y a beaucoup de snacking, de choses comme ça. Donc du coup, Tesco, qui est le leader au Royaume-Uni, les actionnaires, effectivement, ont décidé de poser cette requête. Mmh. Et cette résolution, elle doit être adoptée par 75% des votes pour que Tesco soit obligé de dévoiler la part que représente la vente des aliments et boissons les plus sains à partir de l'an prochain, mmh, et de faire en sorte que cette part, elle augmente d'ici 2030.
Bah, je suis 100% d'accord avec cette initiative, et on apprend en fait qu'elle est coordonnée par l'organisation non gouvernementale Share Action, et portée aussi par des investisseurs institutionnels. Et Share Action, c'est très intéressant, je ne connaissais pas, je suis allé voir ce que c'était. Donc c'est une organisation caritative qui a passé les 12 dernières années à construire les mouvements pour l'investissement responsable. Ils croient que les systèmes d'investissement peuvent être une force pour les biens, mais seulement si ces décisions sont prises ouvertement et avec plus qu'un profit à court terme en tête. Donc c'est très intéressant parce que c'est eux à l'origine de cette action au ouais, niveau des actionnaires de Tesco, quoi.
Et c'est pas le premier acteur coté en bourse qui fait face à une fronde d'actionnaires minoritaires. Hein. Mm-hmm. On a certains industriels qui ont eu aussi à faire face à ce genre de demande. Le plus récent, c'est Danone. Hein,
parce Danone, que, évidemment.
On a aussi des actionnaires chez Coca, chez Pepsi ou McDo.
McDo même, des
voilà,
initiatives similaires.
Qui leur ont demandé plus de transparence, par exemple chez Coca, sur le taux de sucre, combien vous utilisez de sucre dans vos produits. Donc l'idée, c'est effectivement de devenir un activiste en prenant des actions de ces entreprises-là, mmh, pour faire pression lors de l'Assemblée Générale.
C'est très malin parce que c'est jouer avec les règles du jeu, et voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. On parle des manger plus sain, et évidemment manger plus sain passe par cuisiner plus souvent. Et on enchaîne avec un article qui confirme que les Français ont pas mal cuisiné en 2020. C'est sur Les Échos. Friteuse, robot des cuisines, machine espresso, les Covid a dopé les ventes d'électroménagers. Olivier, dans l'article, on apprend qu'un quart des achats d'électroménagers ont été déclenchés par la crise sanitaire. 25% des Français disent avoir cuisiné plus en 2020 et 15% avoir fait plus souvent les ménages.
Oui, moi, j'ai, enfin, on a
on
tous
était coincés à la maison. On
a
pas
tous plus cuisiné, forcément. Hein, on a tous partagé nos expériences de faire du pain maison.
Et
faire
les ménages, tu t'es...
Le ménage, oui, moi, je suis pour le partage des tâches, tu sais. Donc,
ah bah, bien sûr.
On y était déjà.
À la maison, je partage ça pas, c'est que moi qui fais les ménages.
Et du coup, on apprend en fait que les ventes d'électroménagers, elles ont progressé de 5% dans l'Hexagone. Ça représente aujourd'hui plus de 9
milliards
d'euros.
Pour un marché mature comme les électroménagers, ménager, c'est vraiment pas mal. J'ai bossé chez Sony et je t'ai dit, les taux de croissance, ils sont souvent négatifs, quoi.
Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'effectivement, les robots multifonctions, les ventes ont augmenté de plus 24%.
Nos les robots des Thermomix sont contents, là.
Voilà. Ouais. Et Lidl aussi.
Ouais, c'est clair.
Les robots dédiés à la pâtisserie de plus 48%.
Les friteuses.
Les friteuses. Alors, les friteuses, c'est pas très sain.
Hein,
mais il faut aussi se faire plaisir quand
on
est
confiné.
Comment
on peut pas aller au resto pour manger des frites et voilà, pour les faire à la maison.
Ce qui est intéressant, c'est les machines à pain aussi qui ont explosé.
Bah, encore une fois, je pense à ton copain Figure au pain, mais là, plus 82% pour les machines à pain. Vraiment, les Français, ils se sont mis à faire du pain, quoi.
Ouais. Et puis enfin, les appareils à fondue, raclette.
Ah bah oui,
voilà,
raclette partie.
La raclette, ça a cartonné, donc elles ont fait plus 21%.
Un autre produit qui m'a attiré l'attention, c'est les machines avec broyeur des cafés ont aussi une nouvelle fois séduit avec une augmentation des 56%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nos copains du café de spécialité. Donc les gens commencent à acheter des cafés en grains pour faire du bon café à la maison, en fait.
Bah oui, bah les cafés sont fermés, donc si on veut retrouver son petit plaisir,
son petit expresso,
bah oui,
voilà, et on veut pas acheter
on achète du matériel. Alors du coup, la vraie question, ça va être, est-ce que ces gens-là retourneront comme avant dans les cafés?
Ah bah ça, on aura le temps d'analyser tout ça, parce que ça sera la grande question de 2021.
Ça peut être le retour de bâton pour les cafés aussi. Hein.
Un autre produit qui a pas mal marché l'année dernière, c'était les congélateurs, hein, avec une augmentation de 18%, ce qui est énorme en fait pour un segment qui a quand même historiquement très peu de croissance. Et on s'est rendu compte que les Français, ils ont préféré stocker et aller moins souvent au magasin. Donc du coup, un besoin d'un congélateur peut-être plus important pour faire ses courses. Et quand on voit les ventes des chez Picard qui ont explosé aussi au 2020, ça se comprend quoi.
Bah, y a eu la peur aussi d'avoir du monde dans les magasins, donc la peur de choper le Covid. Il y a peut-être des gens aussi qui, tu fais la cuisine, si t'as des restes, tu les congèles parce que t'as peut-être pas forcément envie de remanger la même chose le soir. Donc c'est un ensemble de choses et effectivement les surgelés aussi ont cartonné pour ça. Hein.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la petite anecdote, c'est que côté lavage, ce sont les sèches-linges qui ont eu la côte avec une augmentation de 4%. Et dans l'article, ils disent peut-être pour éviter de voir les linges séchés dans les champs de la webcam.
Eh oui. On a tous fait des zooms, on a tous connu ça.
On continue avec un article du Monde qui parle d'un sujet que nous avons rapidement évoqué dans nos épisodes sur les dark kitchens et dark stores. Mais là, on rentre plus en détail. Donc, c'est l'agriculture urbaine, chambres froides et stockage des colis, la nouvelle vie des parkings souterrains.
Et oui, on sait, dans les centres-villes, on a de moins en moins de voitures. Mmh. On l'a vu hein, avec la crise sanitaire, on a de plus en plus de vélos, donc de moins en moins de voitures. Mmh. À Paris, on supprime des places de voitures, donc on cherche quelque part à chasser aussi les automobilistes.
On est d'accord, donc, du centre de Paris.
Du coup, ça veut dire que moins de voitures, qu'est-ce qu'on fait de tous ces parkings souterrains
Très bonne question.
Qu'on a dans les villes.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait?
Alors en fait, les leaders qui sont Indigo et Fia, hein, ils ont enregistré une baisse de 30% de la fréquentation ces dernières années.
C'est qu'il est normal.
Ouais. Pour eux, il fallait trouver un autre moyen de rentabiliser ces places de parking vides finalement.
Bien sûr, et je pense qu'il y a plein d'usages à imaginer pour du parking bien situé au centre-ville des Paris, dans des grandes villes, et l'utiliser différemment.
Voilà, avec un peu d'aménagement, finalement, on peut transformer un parking soit pour faire pousser des champignons comme le fait Cycloponix,
oui,
pour faire des dark kitchens hein, en installant des chambres froides, etc.
Ce qui est très intéressant, pour faire des dark stores.
Des dark stores,
c'est les cartes du bon marché, des bons marchés, je ne savais pas en fait qu'ils ont l'île de la Cité à Paris, au niveau moins 1 du parking, en fait, il y a une trentaine de salariés qui préparent les commandes et qui livrent à vélo à partir de ces parkings-là, qui est vraiment situé au centre des Paris, quoi, au cœur des Paris.
Et ça va être le vrai enjeu de demain, ça va être de trouver justement ces emplacements-là pour pouvoir livrer au plus vite, que ce soit en 15 minutes ou en une heure, ceux qui font les commandes.
Il y aura toute une guerre de l'immobilier de ces acteurs pour chercher les bons emplacements avec les bonnes conditions.
Et on sait que le dernier kilomètre, c'est le nerf de la guerre dans la livraison. Donc, ceux qui trouveront les bons emplacements, et on a, je ne sais pas combien on a de places de parking.
On en a pas mal à Paris.
Que ce soit à Paris ou même dans certaines grandes villes. Hein.
Bien sûr.
Et du coup, ça permet finalement de réutiliser des espaces qui étaient inutilisés. Et on va avoir une vraie vie souterraine. Ça va grouiller dans les années à venir.
C'est très intéressant.
Dans les souterrains, hein.
On apprend qu'il y a même toute une organisation, en fait, parce que la logistique s'installe au niveau moins 1 et moins 2, plus accessible au vélo cargo, plus conforme au code des travail aussi. Et sur les étages, à partir du moins 3, moins 4, dès qu'on descend un petit peu plus, on va peut-être garder aussi l'usage des parkings, parce que c'est qui dit le représentant d'Indigo. En fait, on ne sort pas les voitures des parkings complètement, mais il s'agit seulement de retrouver une mixité d'usage, en fait. Donc, on va avoir moins de place pour les voitures et les places qu'on va libérer, on va l'utiliser différemment.
Tout à fait.
Bon, on part à Londres maintenant pour parler d'un acteur très connu de l'agroalimentaire qui souhaite réduire son empreinte plastique. Enfin, c'est sur BBC News, Coca-Cola Company trials first paper bottle. Coca-Cola teste la première bouteille en carton.
Oui, il faut savoir que Coca-Cola a été élu premier pollueur de plastique au monde par l'association Bulk Free from Plastic. Mm-hmm. Et du coup, forcément, hein, quand on réfléchit aux ventes de Coca-Cola et le nombre de bouteilles qui doivent écouler tous les ans, on imagine bien que le Coca-Cola est un énorme consommateur de plastique. Mm-hmm. Et du coup, en fait, ils ont mis en phase de test avec l'entreprise danoise Paboco, une bouteille en carton. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas pour la marque Coca, hein, c'est pour une des marques du groupe Coca-Cola, qui est une boisson aux fruits qui s'appelle Addies, ou Addies.
Addies.
Et du coup, l'idée, c'est vraiment de tester cette bouteille-là, parce que forcément, on passe pas du plastique au carton en claquant des doigts. Hein.
Et surtout que les liquides à l'intérieur, en contact avec les cartons, il peut avoir un changement du goût.
Et il y a vraiment, c'est un défi technique et technologique pour
énorme
pour
défi technique
danoise. Oui. Hein. Ouais. C'est déjà une bouteille qui doit être 100% recyclable. Il faut aussi empêcher le gaz de s'échapper des boissons.
Bien sûr.
Les boissons gazeuses, elles vont exercer une pression sur la bouteille.
Qui peut déchirer la bouteille. Et en plus, il dit, c'est que les cartons doivent pouvoir être moulés pour créer des formes et des tailles des bouteilles distinctes pour différentes marques et prendre aussi de l'encre pour l'impression de leur étiquette. Donc, c'est quand même assez complexe.
Voilà, je pense qu'on ne remplacera pas le plastique du jour au lendemain. Par contre, c'est un vrai défi pour demain. Ceux qui seront les premiers là-dessus, bah, ils auront forcément une bien meilleure image auprès du public, parce qu'il faut aussi voir que nous, en tant que consommateurs, le plastique aujourd'hui, ça devient quand même une préoccupation du consommateur.
Majeur. Et c'est qu'on apprend, donc justement ce que tu disais, bah, comme les cartons ne suffisent pas, ces bouteilles, elles ont quand même une fine doublure en plastique à l'intérieur pour protéger les contacts du liquide avec les cartons. Et maintenant, ce qu'ils souhaitent, c'est passer en mode test, parce qu'ils ont déjà développé donc des prototypes, et là ils ont 2000 unités qui vont être distribuées. Et justement, parce qu'ils disent, nous avons déjà une très bonne compréhension de ce que la bouteille va subir lorsque vous devez entrer dans les mondes réels, mais là ils veulent vraiment tester avec un usage concret pour voir vraiment si la bouteille tient les chocs, tient les coups de la logistique, quoi.
Oui, et puis effectivement, il y a aussi tout un problème de coût derrière, parce que pourquoi on utilise beaucoup de plastique? Parce que le plastique, c'est pas cher.
Voilà.
Donc, faire une bouteille en carton, ça aurait forcément un coût fixe plus important.
C'est clair.
Et tant qu'on n'arrivera pas à baisser ce coût fixe, on aura du mal à imaginer des bouteilles de, je sais pas, de cristalline. La cristalline vaut pas cher à la base. Si la bouteille, le prix de la bouteille augmente, forcément, ça représente un coût important.
On est d'accord. Et ils disent, en fait, évidemment, on est tous excités par ces genres d'initiatives, mais en fait, ces initiatives-là, elles datent déjà des presque 10 ans. En fait, il y a plein des prototypes, plein d'essais avec des bouteilles, des emballages en carton. Mais c'est comme tu dis, les bouteilles en plastique sont pas chères. Elles sont déjà intégrées dans l'industrie. Elles sont aujourd'hui, pour une grande partie, largement recyclées. Donc, en fait, c'est remplacement qui va se faire, on est d'accord, d'ici 5, 10, 20 ans. Mais il va prendre du temps parce qu'il coûte cher, et la solution du plastique, même si elle n'est pas bien pour la planète, elle est pas chère, et du coup, c'est celle qui est choisie par les industriels.
Mais en tout cas, c'est bien de voir des leaders s'emparer de ce problème-là. Parce
on
que
est 100%
les
d'accord.
Les leaders, c'est eux qui vont tirer tout le reste.
Et de toute façon, je pense que demain, les consommateurs vont pousser dans ce sens-là. Donc, les acteurs qui proposent une boisson en plastique, ils vont être défavorisés par rapport à ceux qui proposent une boisson en carton. Un dernier article sur les droits des douanes aux US. Donc, c'est Wall Street Journal. Tariffs on wine and food from Europe to stay for now, US says. Donc, les droits des douanes sur les vins et les aliments en provenance d'Europe doivent rester en vigueur pour le moment. Olivier, Trump est parti, mais les droits des douanes, ils sont toujours là.
Oui, et la profession avait un léger espoir que ces droits de douane qui ont été mis en place par Trump, c'est un vieux différent entre l'Union européenne et les États-Unis. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, enfin intéressant mais triste pour la filière vin et ceux de l'alimentaire qui sont concernés, c'est qu'en fait, c'est un différent qui concerne Airbus et Boeing.
Donc, c'est énorme.
sur des aides supposées, il y a du coup, les États-Unis ont mis en place, et l'administration Trump a mis en place des taxes sur des produits alimentaires européens comme le fromage, les olives, certains vins, pour une valeur de 7,5 milliards de dollars. Et les acteurs espéraient que Biden mettrait ça au placard, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est un peu la soupe à la grimace, hein, je dirais.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en interne aux US, les lobbies de l'industrie américaine de la restauration et des boissons, ils sont contre cette décision parce qu'ils disent que ces droits des douanes sur les produits alimentaires et les vins touchent des secteurs les plus vulnérables de l'économie au pire moment depuis des générations. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'ils disent que 80% des charges supplémentaires, donc de l'augmentation du prix grâce aux droits des douanes, ils ont été absorbés soit par les entreprises américaines, soit par les consommateurs américains. Donc en fait, finalement, l'idée de Trump qui était de pénaliser l'Europe, finalement, finit par pénaliser un secteur aux US qui est très fragile en ces moments.
Voilà, donc on peut peut-être espérer qu'ils seront entendus, mais en tout cas, ça a pesé sur les volumes et les ventes de certains produits, je pense au champagne, au vin,
les fromages,
qui sont forcément impactés.
Ouais, bien sûr.
Et effectivement, c'est les consommateurs US qui vont avoir la charge du gros de cette hausse sur les trois
doigts,
non ?
Et c'est qu'ils disent dans la restauration, c'est quand même les boissons alcoolisées, les vins, les champagnes, c'est une source importante des profitabilités. Donc à partir du moment où les restaurateurs ils gagnent moins d'argent avec ces produits-là, ils auront du mal à compenser les pertes qu'ils ont accumulées sur la dernière année.
C'est sûr.
Bon, on va finir l'épisode comme d'habitude avec quelques perles dénichées sur Twitter. On commence, Olivier, avec un tweet qui ne fera pas plaisir à mon cher associé Philibert.
Ouais, c'est un tweet que j'ai déniché, je trouvais marrant. C'est en fait quelqu'un qui a lancé un concours mondial du distributeur alimentaire le plus insolite. Donc je vous invite à aller voir, c'est sur un compte, vous trouverez sur la newsletter, mais on y trouve par exemple un distributeur automatique de raclette. Donc Philibert, Philibert, si on lui met un distributeur de raclette un peu partout en France,
ouais,
il
mais c'est juste
content.
Quand on voit les types des raclettes qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air d'être des raclettes un peu industrielles. Je pense que c'est pour ça que mon cher Philibert sera pas content. On va encore parler d'un distributeur automatique, mais cette fois-ci à la station F.
Oui, voilà, et c'est Picard qui développe cette fois-ci des distributeurs automatiques qui posent dans les entreprises. Je trouve cette diversification assez intéressante parce que finalement, Picard fait beaucoup de plats pour le déjeuner juste à réchauffer au micro-ondes. Et je suis assez curieux de voir comment cette nouvelle offre Picard va se développer. Et là, c'est un distributeur qui a été installé à Station F.
Et tu sais comment ça marche, en fait ? Je me posais la question. Donc, les produits, évidemment, ils sont surgelés à l'intérieur. Mais quand on l'achète, il est livré surgelé. Et nous, on doit les chauffer nous-mêmes avec un four, micro-ondes. Ou il y a un micro-ondes intégré dans la machine ?
Non, je pense que c'est à toi de le réchauffer.
À toi de le réchauffer, d'accord.
Alors, peut-être que Picard peut nous envoyer des précisions là-dessus. Mais en tout cas, à mon avis, c'est à toi de le réchauffer. Tu le récupères froid et tu le réchauffes toi-même.
Ouais. Moi, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en fait, c'est un distributeur qui est disponible 24/7. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille jusqu'à très tard chez la Station F, il peut aller chercher son petit repas à Picard et les chauffer au micro-ondes.
Oui, Station F, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un incubateur de start-up qui est situé à Paris. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'il y a, des gens qui travaillent tard le soir.
Ah, ouais, les entrepreneurs, ils bossent dur, quoi. Et les rois de l'innovation de chez KitKat se lancent maintenant dans les vegans. C'est quoi cette histoire ?
Oui, c'est Xavier Terlet qui a déniché ça. C'est en fait, KitKat, on sait que c'est un peu... Il y a de l'innovation tout le temps, surtout,
ouais, ça, moi, j'ai...
surtout au Japon. Hein,
ouais,
plus,
moi, j'ai
hein.
vécu au Japon et en fait, j'ai goûté, je ne sais pas, une dizaine des KitKat différents, au thé vert, au machin, au haricot rouge.
Voilà, et puis on peut imaginer que certains vegans étaient en manque de KitKat. Donc, pour répondre à...
Moi, j'étais même surpris qu'ils n'avaient pas encore un KitKat vegan, en fait. Parce
que... Ouais, c'est le chocolat, hein, finalement. On remplace du lait de soja ou du lait d'amande.
Voilà, c'est
donc,
plus compliqué.
Par contre, j'imagine que ce sera un peu plus cher que le KitKat normal. Mais en tout cas, c'est une diversification intéressante de la part de Nestlé.
C'est clair. Bah, Olivier, merci beaucoup pour cet épisode des Eats Business. C'était un plaisir comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Salut Daniel, au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.